moi et moi.
Et vous.
Une série d'émissions présentées par Olivier Bas, réalisée par Philippe Labrousse, coproduite par les radios francophones publiques consacrées à Jacques Dutronc.
Dutronc. Attends, tu veux dire le bout du tronc?
Non.
Cigare.
Je trouve qu'il a un charisme, un magnétisme assez extraordinaire.
Encore ?
Je trouve qu'il a un charisme, un magnétisme assez extraordinaire.
Eh oui, Thomas, eh oui, c'est pas facile de parler de son papa.
Méfiez-vous, c'est un truand.
Dutronc, quatrième, l'humour.
Vous connaissez celle de l'alpiniste ?
Extrait du film « C'est la vie ».
Alors, c'est un alpiniste qui est en train de faire la face nord de l'Everest. Il monte, doucement, centimètre par centimètre. Et puis tout d'un coup, paf ! Son pied dérape et il fait une chute d'au moins 20 mètres. Bon, il se retrouve à se balancer comme ça au-dessus du vide. C'est terrible. Et ses crochets de sécurité sautent les uns après les autres. Eh oui. Il n'y en reste plus qu'un. Alors, si celui-là lâche, il est foutu. Voilà. Donc il n'ose plus bouger, il se balance tout doucement. Et autour de lui, c'est le vide, le silence. Alors bien entendu, il commence à prendre une petite voix et appeler à l'aide, au secours. Rien, bien sûr. Alors là, il prend un peu plus de force puisqu'il commence à paniquer et il se met à hurler. À l'aide ! Il n'y a personne ! Au secours ! Il y a quelqu'un ! Et là, tout d'un coup, une grosse voix se fait entendre qui emplit tout l'espace, qui lui dit « Mais si, je suis là, mon fils. Viens, je t'attends. » Alors l'alpiniste prend une toute petite voix et fait « Il n'y a pas quelqu'un d'autre. » Bon anniversaire. Voilà, je vais passer parmi vous.
L'humour, c'est très, très... Enfin, chez Jacques, c'est révélateur de beaucoup de choses profondes.
Michel Blanc.
Alors, arriver à synthétiser ça, je crois qu'il y a quelque chose de désespéré, de provocateur et de pudique, parce que c'est avec son bouclier. C'est avec ça qu'il protège, c'est sa carapace. Et ce qui est à l'intérieur est de toute évidence extrêmement vulnérable. Donc voilà, c'est assez paradoxal de se protéger avec de... Enfin non, peut-être pas d'ailleurs. Avec justement quelque chose de provocateur et de spectaculaire quand on ne veut pas livrer une intimité. Même c'est comme ça que je le ressens, moi. Mais attention, il faut aussi se rendre compte qu'il y a un goût de la déconnade. Vous voyez, il ne faut pas réduire ça à uniquement je ris pour ne pas pleurer ou je lance des grosses blagues parce que je suis quelqu'un de très subtil. Bien sûr qu'il y a ça, mais il y a aussi j'aime bien me marrer.
C'est pas mal.
Ah oui, non, mais tout ce qu'il dit est bien de toute façon, même s'il ne parle pas de moi, c'est bien. Non, mais je l'adore et j'ai un grand respect pour ce monsieur.
Alors votre humour, votre fameux humour, il est... Il est où? C'est des proches, c'est de Funès, c'est Choron ou c'est Jacques Dutronc?
Mais toute sorte d'humour est bonne. Hein. Non, mais c'est très gentil de me mettre dans cette clique-là. C'est très gentil, mais je n'arrive pas à la cheville. Des proches étaient un génie quand même. Un génie, mais alors, sans borne. Ouais, c'est. Mais tous, moi, Fernand Reynaud aussi, c'était...
Qui est venu vous voir à Tête de l'Art aussi.
Ah, il venait très souvent.
C'est humour ou c'est amuseur?
Ah, l'humour, ça se fait en s'amusant en principe, mais ou alors, faut pas être trop égoïste et surtout pour amuser les autres. L'humour pour soi, c'est une espèce de Michael White parlait de carapace. Bon. C'est vrai que souvent, c'est une manière de s'en sortir, mais bon, il y a quand même Bedos qui disait que des choses tristes, faut les transformer en choses drôles, quoi. Avec des choses tristes, on fait du drôle, mais ça peut pas n'être qu'une devise, quoi. On peut pas, hélas, tout, bon, avec l'âge, on se dit non, tout, ça passe pas, on peut pas tout transformer comme ça. Mais l'humour aussi vient de, moi, d'un truc bon enfant que j'aime beaucoup chez tous les gens qui en font ou qui font, je sais pas, tout pour faire ce genre de choses. Enfin, c'est leur vocation. Je ne sais pas si on dit vocation pour ça, mais qui en font ou qui en ont fait, c'est les bandes dessinées. Tous les gens qui viennent des bandes dessinées ou qui en font, comme je dis, ou qui vont en faire, c'est les gens bien. Ils sont gentils. La plupart, enfin, tous ceux que je connais sont tous gentils. Il n'y a pas de haine entre eux. Je sais pas, ils admirent leur boulot entre eux et tout va bien. Alors que dans la chanson, je crois que ça déguise pas mal. Hein.
Moi, je connaissais beaucoup de vos chansons, mais il y en a une que j'ai découverte. Je pense que ça va être ma préférée. Donc, il faut que vous m'expliquiez comment ça s'est fait. Ça, c'est « Ma poule n'a plus que 29 poulets ». J'adore.
Ah ouais, c'est bien. Ouais. Mais au départ,
comment c'est venu, ça,
j'avais commencé à 500, je crois. Donc, ça pouvait durer. Je peux faire un triple CD. Ouais. En démarrant à 1000, ma poule n'a plus que 900 poulets, ma poule n'a plus que 900 poulets, mais elle en avait 1000. Enfin bon, etc., ça peut durer très longtemps. Hein. D'où ça vient ? Mais je crois que c'est des trucs de colonie de vacances. Je crois, hein. C'est si, si, puisqu'il y a allongeant la jambe, ma mignonne, car la route est longue. Donc, ouais, ça doit être genre 2 km à pied, ça use. Ouais. C'est le même principe. C'est du Bourg-Crane, ça.
Alors le texte est très drôle et la musique c'est quand même incroyable aussi, c'est une espèce de musique moyenâgeuse, ça vous est venu comment ça ?
Ah je ne sais pas mais je pense que c'est venu aussi du fait que je venais d'acheter un mélotron, il y a plein de chansons qui sont influencées par le mélotron.
Alors qu'est-ce que c'est le mélotron, oui ?
Ah c'était un truc génial et là je l'ai vendu, j'étais un con parce que j'aurais dû le garder, c'est une œuvre, une pièce unique, c'était génial ça. C'était un truc qui, maintenant, les synthés, tout ça paraît normal de faire des cordes ou de la flûte ou de la guitare sur le moindre clavier. Et le mélotron, c'était un truc assez gros, hein, comme un orgamon à peu près, tout en bois magnifique. Et dedans, c'était des bandes magnétiques qui se déplaçaient, qui changeaient, qui donnaient vraiment les cordes. C'était bon, des cordes enregistrées sur ces bandes, et tout ça, c'était un truc énorme. Et c'était bien, et Georges, donc mon fidèle... associé en studio, Georges Roddy, savait très bien en jouer, quoi. Enfin, il jouait très bien de l'orgue et tout ça. Et c'était ça ouvrait pas mal de. Pas des fantaisies, quoi. Je sais pas, on faisait de la flûte d'un seul coup, là où est-il l'ami Pierrot, je ne sais quoi. Enfin bon.
Ma poule n'a plus que 29 poulets, ma poule n'a plus que 29 poulets. Ma poule n'a plus que 29 poulets,
ma poule n'a plus que 29 poulets.
Ma poule n'a plus que 29 poulets. Que 15 poulets,
ma poule n'a plus que 15 poulets,
ma poule n'a plus que 15 poulets,
ma poule n'a plus que 15 poulets.
Que 5 poulets,
ma poule n'a plus que 5 poulets,
ma poule n'a plus. plus que 5 poulets.
Ma poule n'a plus que 5 poulets.
Et elle en avait 30.
Elle en avait 30.
Et allongeons la jambe, ma mignonne, car la route est longue.
Allongeons la jambe, ma mignonne, car la route est longue.
Ma poule n'a plus un seul poulet.
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 Et elle en avait 30.
Elle en avait 30.
Et allongeons la jambe, ma mignonne, car la route est longue.
Allongeons la jambe, ma mignonne, car la route est longue.
On est très différents, Jacques et moi. J'admire beaucoup Jacques. Jacques, c'était un turbulent, hein, quand il était plus jeune. Hein. Il adorait faire des blagues à tout le monde, des blagues invraisemblables. Il a beaucoup d'humour. C'est quelqu'un qui a un humour formidable, mais toujours un humour en décalage. Et son humour en décalage vient certainement de sa grande timidité, parce que Jacques, c'est un grand timide.
France Inter.
Jacques, c'est quelqu'un qui a du mal à regarder quelqu'un dans les yeux en lui parlant. Il baisse toujours un peu les yeux. C'est preuve de grande timidité, ça. Mais c'est un grand artiste, un grand comédien.
Merci, Johnny. Tout n'est pas racontable, mais Zouzou, la twisteuse, elle s'y colle. Allez, Zou.
C'était quelqu'un qui me faisait mourir de rire et qui était prêt à faire tout le temps des conneries, comme moi j'étais partante pour toutes les conneries. On faisait des trucs ignobles. Ignobles. On allait au Wimpy, il crachait dans les trucs... des gros molars, mais vraiment dégueulasses, dans les trucs de tomates, ketchup et tout. Puis après, on sortait, on regardait par la baie vitrée du Wimpy qui était en face du Golf Row. On regardait les mecs en train de se mettre du ketchup et tout, en se disant... ça nous faisait marrer, mais c'était vraiment des trucs de cons et qui nous faisaient vraiment marrer, mais c'était l'époque. Hein. Je crois que j'étais la seule nana avec qui pouvait se permettre tout ça et me faire rire. Je lui ai dit, attendez, il se pointait carrément devant la porte, par exemple. Alors, tous les autres écroulaient de rire. Ça frappait à ma porte, j'allais ouvrir et j'avais un mec tout nu avec un porte-manteau sur son sexe et son costard devant. Et moi, j'étais horrifié, je claquais la porte et ils étaient tous écroulés, contents. Ah, on l'a eu, et ils m'avaient à tous les coups, quoi, c'est sûr. Et je me fâchais jamais parce qu'ils étaient formidables. En même temps, ils me défendaient et tout, personne ne pouvait me toucher. J'étais la petite sœur qu'on protège, quoi.
Vous avez fait tout ça?
Sûrement, oui, elle a plus de mémoire que moi. Mais sûrement, enfin, des conneries, oui, on en a fait, ouais. Mais je sais pas si on en a déjà parlé, mais moi, les conneries, je pouvais aller jusqu'à tout réparer, quoi. Si je cassais une voiture, j'allais la réparer. Bah ouais, il y a eu pire, quand même. Ouais. Bah, c'est l'âge qui veut ça, je crois, ou c'est peut-être un mode de vie, mais... Non, mais il faut déconner, quand même.
La parole est donnée au philosophe Jean-Louis-Y.
Vous pensez que Jacques est quelqu'un qui profite de la vie tous les jours ?
Oui. Jacques, c'est un déconneur. Et j'aime les déconneurs. Jacques a toujours été un déconneur. Il aime la vie, il aime la passion. T'es un passionné, t'es un dingue. Quand je dis dingue, c'est dans le bon sens du mot, quoi. Il adore ça. Et la vie n'est pas construite par les constipés du cerveau.
Ce soir-là, je ne sais pas ce qu'il aurait passé par la tête, parce que c'est vraiment un truc de fou dangereux qui commence. Dutronc a commencé à faire Akum Papadé, et les gens ont fait Akum Papadé, Puis ça, le bruit est monté, tout le monde a attrapé des instruments, n'importe quoi, on tapait sur n'importe quoi, de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Puis, bon, quand on est arrivé à un paroxysme du boucan, on recommençait à 0 et 1, et donc il y avait de chants forts, il y avait tout le monde, Putain-Flamme, il y avait Califa, machin, bref, tous les gens qui pouvaient être dans le coin étaient réquisitionnés pour aller faire les dingues. Je pense qu'il y avait même des gens, des charlots, je ne sais quoi, qui avaient dû atterrir là. Et c'était vraiment un vaste bordel et ça a duré très très tard. On a hurlé, et le lendemain, il y a des plaintes, alors que quand même le studio était complètement insonorisé. Et on a dû finir vers 4h du matin.
Mais oui, c'est ça, vous n'aviez pas du tout conscience que ça allait devenir une chanson mythique, quoi.
Ah non, attendez, comment on peut deviner que ça va devenir mythique quand on tape sur des casseroles ou quand on attrape, je sais pas, un vieux bout de bois pour taper sur un piano de toutes ses forces en faisant « Ah 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 !» Akum Papadé, qu'est-ce que ça veut dire, je veux dire.
Oui, c'est ça, et vous avez l'explication
non, c'est des onomatopées du tronc, quoi.
Astro ! Astro !
Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Mais non, mais...
Et ça, et Merde in France, c'était pas une façon de dire les paroles, c'est le sens n'est pas aussi important que ça. C'est là où je voulais
non,
en venir.
Parce que
c'est
non, Merde in France, c'était bon. Je suis parti au studio vers midi. À 10h, j'écrivais les trucs, la Fauchonne comme le duo, tout ça. Bon, non, mais c'était plus Gamberger, Merde in France quand même. C'était un ramassis de trucs qui dataient depuis très très longtemps parce que je faisais du lavabo depuis longtemps. Après, ça s'est transformé en yaourt, mais là-bas, c'était du lavabo. Ouais. Tout le monde chantait anglais en faisant « Moi, je suis une liou, je ne sais pas quoi bon. ». C'était plus élaboré, alors que la Akum Papadé, c'était une espèce de récréation. Ouais.
Mais quand vous avez...
C'est la récré, quoi. En fait.
Quand vous avez appuyé sur le bouton pour enregistrer, vous aviez déjà l'idée de le mettre sur un disque ?
C'est pas moi qui appuie sur le bouton. Ouais. C'est pas moi, puisque on était genre ad lib dans les studios. Je crois que André Bernot, là, le célèbre bouquiniste, ex-ingénieur du son, lui se disait ben là, ça faut le prendre, il appuyait, mais c'est pas moi. Moi, je te dis, c'était la récré, quoi, comme les mômes qui hurlent, qui sortent de l'école, quoi. C'est, ouais, ça ressemblait à ça. Et tout le monde se défoulait, ouais, c'était pas mal.
C'est une chanson qui vous a marqué quand même, hein. Au Casino de Paris, style. Oui, presque plus de 20 ans après, vous la reprenez quand même.
Oui, parce que ça me plaisait de donner des... Bon, j'ai eu quelques difficultés avec ça, parce qu'on m'a dit, fais gaffe, on va te les retourner dans la gueule. Ça, je voulais offrir plein de tambourins, plein de... Bon, mais là, ce qu'on a offert, c'était un peu minime. Plus ça allait, il y en avait de moins en moins, et après, il n'y avait plus rien. Mais sinon, je voulais offrir vraiment un tas de tambourins, des tablas, des congas, de bongos, enfin, un tas de trucs, et... Surtout, ce que je voulais, c'était sortir du Casino de Paris, descendre la rue de Clichy, et oui, prendre la rue de la Chaussée d'Antin et aller jusqu'à l'Opéra. Et on m'a interdit parce que les CRS ont refusé. Ils ont dit, on peut pas.
Astro ! Astro !
Okay.
Dutronc a de l'humour et parfois c'est même explosif.
Là, on peut le raconter, une machine à paix télécommandée. Et alors ça, bon, ça c'est l'extrême dans ce qu'on pourrait qualifier de mauvais goût. Et qu'un type qui est capable de faire ça, qui le fait d'une manière extrêmement gonflée que je vais vous raconter et que ça fait rire et qui en même temps a les délicatesses et les pudeurs dont il est capable, c'est un être vraiment extrêmement double. Alors, bon, sa grande plaisanterie, c'est de le mettre sur le chariot à liqueur d'un très grand restaurant, vous savez, un genre Michelin, trois macarons, et de le poser discrètement, et comme ça se télécommande, c'est un tout petit boîtier, au moment où le serveur va aller à une table un peu chic, un peu ampoulée, se pencher pour attraper une bouteille d'alcool, il déclenche la machine à paix, ce qui provoque une gêne et à la limite du scandale. C'est énorme de faire ça. Et voilà, c'est ce côté irrespectueux me plaît beaucoup quand même.
Elle est où?
Oui, non, bah,
elle est où, cette machine à paix?
Ah, j'en ai tout le temps dans mes affaires. Mais j'ai une valise toujours qui me suit. Enfin, une valise, j'ai un sac en cuir qui me suit. Il y en a une en permanence. Et c'est très juste ce qu'a dit Michel. J'ai fait ça. Mais c'est parfait. Mais. L'effet est garanti, c'est génial. Il y a un seul mec qui a apprécié cette machine, c'est le maître, monsieur Claude Chabrol, qui lui a aussi trouvé un truc, mais il est quand même plus, il fait quand même plus d'investigations que les autres, puisqu'il a dit, je pense que cette machine lui permet d'en faire des vrais. Et je crois qu'il m'a découvert.
Bon, alors là, évidemment, puisqu'on est dans ce chapitre-là, je vais passer effluve.
Bah oui,
c'est logique. Hein.
Oui.
Donc c'est fait à la bouche?
Ça dépend, ouais. Il y a une version, il y a quelques vrais, mais bon, comme j'en... Enfin, je voulais pas trop m'étaler, si je puis dire. Je vais pas trop rester là-dedans, donc... ouais, je crois que c'est à la bouche. Mais il y a une version différente. Elle n'est pas sur la compile. Il y a une version différente. Sinon, en 67, je voulais faire... par rapport à Effluve, je voulais faire Vive les vents d'hiver, sans H. Hein. Voilà, et puis je pense que la maison de disques a refusé, sinon c'était un succès international, et on m'a envoyé par ordinateur il y a quelques jours, quelqu'un l'a enregistré, et je l'ai là, voilà, je me suis fait battre. C'est bien beau d'être précurseur, mais... Thank you.
France Inter.
Et puis il y a une autre date encore, alors c'est en 69, à Mexico, vous avez gagné un concours.
De paix.
Voilà.
Et c'est exact. Et vous avez... Et j'avais des concurrents sérieux, j'ai gagné.
Et bien, vous avez gagné.
Et j'ai été vérifié, pas de doping, enfin pas de...
Pendant impeccable. 3 jours, ils avaient pris tout ce qu'il faut pour ça, aliments...
Non, tout à fait normal.
Les aliments recommandés pour ça.
Enfin, bah oui, on fait l'entraînement normal, quoi. Enfin,
non, mais voilà.
Et j'ai gagné, c'est exact, et c'était le soir de Noël, d'ailleurs.
On est très peu à le savoir. Bon, sérieusement, maintenant, sérieusement.
Mais c'est vrai.
Oui, c'est vrai, mais je sais pas si c'est en 69, hein. Je crois que c'est avant. C'était à Mexico, ouais. On ne sait pas quoi foutre. Il y avait Joyeux Noël partout en espagnol. Je prononce bien, je dis Feliz Navidad. Tu vois. Ça ne doit pas être ça. Bon. Et je voyais ça partout. Et donc, j'avais une banlieue comme caméra. Enfin, j'avais tout du touriste. Puisque Jean-Marie Perrier, c'était lui l'autre concurrent. Il y avait Régis Pagnès. Génial. Et eux devaient voyager quand même plus que moi. Moi, c'était la première fois que j'allais aussi loin de la Provence, quoi, Acapulco et tout ça. Bon. Et donc, à Mexico, soir de Noël, que faire ? Ah, j'ai dit, il n'y a qu'un truc, c'est un concours de paix. Donc, c'est ce que nous avons fait. Mais malheureusement, la cassette a disparu. Je ne sais pas si le mec l'a volé dans le genre, il y a de la musique, mais il a dû être déçu, il a dû l'acheter, c'est con, parce que ça fait des souvenirs. Hein. Je n'irais pas dire que ça laisse des traces, mais...
Alors, puisqu'on est dans ce registre-là, vous avez assisté, si je puis dire, à l'écriture d'Evgeny Sokolov, si je prononce bien.
Ah oui, on en a parlé de ça, même. Avec Serge, oui, oui. Ah mais non, j'ai pas participé du tout, mais c'était bien. Mais... C'est dommage qu'il n'ait pas fait... Moi, il est vrai que pendant un certain temps, je voulais faire vraiment le Pujol, quoi, aussi. Donc, le pétoman, mais... Et au moment où ça c'est presque fait, on a appris que c'était Dustin Hoffman qui avait acheté les droits. Donc, je sais pas. Bah, à l'époque, on disait, enfin, ce que je disais, enfin un disque de paix avec tous ces films de guerre, ça changerait quoi.
Guerre et paix.
Oui.
Vous parlez parfois de paix, on en a parlé. Je vous ai jamais entendu dans toutes les interviews parler de cul. C'est un truc qui est très privé ou c'est jamais. Il n'y a jamais de blague grivoise, je trouve. C'est par respect.
Je ne sais pas, ou on ne m'en demande pas, ou je ne sais pas. Mais ça ne me monte pas la tête à ce moment-là. Alors si, j'ai dû en dire des cochonneries, là.
Attention, mes amis, bientôt minuit. Attention, mes amis, bientôt minuit. C'est l'heure de gymnastique du professeur du train.
Extraordinaire qu'il a fait, parce que ça c'est vraiment la blague, parce que les plus jolies des blagues c'est quand la victime, donc en l'occurrence c'était moi, n'est pas au courant.
Eddie Mitchell sur France Inter.
Et il se trouvait que je devais faire un film et que je devais faire des choses dans ce film, où je devais me battre, où je devais sauter d'une fenêtre, où je devais faire... Enfin bref, on me dit, ça serait pas mal de perdre 4-5 kilos, dépêche-toi. Ah, bon d'accord. Et on me dit, bah, pour aller plus vite, il faut aller dans une salle de gym. Tout ce qui n'est pas moi, tout ce que dès que ça sent des pieds, moi je ne peux pas aller dans des endroits pareils. Et donc, moi je m'y résigne et puis j'y vais. Donc on me met dans un petit coin pour qu'on ne m'emmerde pas trop, et puis on me fait faire du vélo, me fait soulever des poids, et puis c'est vrai que j'élimine. Et cet enfoiré de Jacques appelle chez moi alors que j'étais à la salle, tombe sur ma femme et dit, oui, il dit, il est à la salle. Alors lui, il n'en revient pas, il est à la salle, qu'est-ce qu'il fout à la salle? Il est en train d'essayer de perdre des kilos pour le film qu'il doit tourner. Ah bon, d'accord, il y a quelle salle? Et ça n'a pas loupé. Une demi-heure plus tard, c'était la panique dans la salle de gym, parce qu'il était arrivé avec un mini-orchestre, accordéon, violon, une trompette, et ils jouaient tous la dernière séance, et il y avait des gens en garçon de café qui filaient le champagne, des seaux, des brocs de champagne à tout le monde, et en plus, que moi je ne savais même pas, mais que lui savait, c'est que dans cet endroit, au-dessus de la salle où on me faisait donc perdre du poids, il y avait une espèce de grande salle de studio de répétition, je ne sais pas trop quoi, mais c'était un décor de film, parce qu'il y avait un tépaz pourri, et c'était des bonnes femmes qui apprenaient la danse du ventre. C'est quand même c'est un truc de film, quoi. Je veux dire, c'est une image, avec une véritable Marocaine qui était là en train de secouer le panier et qui disait, voilà, comment on devait faire la danse du ventre à des secrétaires, à des marchands de journaux, à je ne sais pas qui, bon bref. Et lui est arrivé aussi là-dedans, il n'y a pas de problème, avec les enfants, mais non. Alors, prenez un break, et tenez, il a bourré la gueule à tout l'immeuble. Et ça s'est terminé que moi, ils m'ont viré aussi.
Véridique?
Bien sûr, c'était exact. Et j'ai pas honte.
Non. C'est ça votre canular le plus réussi ou il y en a eu des mieux encore?
Il y en a eu d'autres. J'en ai eu d'autres. J'ai travaillé avec d'autres personnes qu'avec Eddie. Hein. Non, il y en a eu d'autres. Là, ça ne me vient pas maintenant.
Celle-ci, elle est jolie. Alors là, maintenant...
Oui, celle-là, je n'y pensais pas. Et puis, c'est bien qu'Eddie me remette ça en mémoire parce que ça peut remarcher encore. Il ne faut pas que je me gourde sale aussi parce que si c'est un bistrot, ça va me coûter cher.
Par contre, je peux faire un break, là, parce que j'ai soif...
Levez les yeux, majesté, ici, oui, point de rêver. C'est bien moi qui ai parlé, moi, tête de serpent paillé. Serre par le champ, bel enchâssé. Voici bon nombre d'années.
Parle-toi, ce beau trophée naturalisé, que mon sang mêlant a dans ma chambre à coucher, dans ma chambre à crocher. Pourquoi me remercier?
Mon fils, tu as sauvé aujourd'hui, majesté, aujourd'hui, majesté. Mon fils, tu as sauvé.
Es-tu en train de chanter? Oh là, c'est rempaillé. Oh là, c'est rempaillé. Qu'es-tu en train de chanter?
Le cerf asthmatique que tu as protégé de façon magnifique, ce cerf était mon fils qui est sauvé, aussi pour te prouver que je sais remercier. Je vais t'indiquer le moyen d'avoir de l'autorité.
Quel est le genre de chanson que vous préparez en ce moment? Travaillez toujours avec Jacques Lanzmann?
Oui, mais enfin j'ai travaillé avec Fred là pour des contes pour enfants que j'ai fait. Là j'ai fait un nouveau disque uniquement avec Fred. Mais j'ai du mal d'ailleurs à le faire passer car il y a le mot Jésus dedans. Je trouve ça d'ailleurs un peu arriéré. C'est vrai? des religieux ou des gens de religion trouvent ça très bien, et les autres gens disent « Oh non, enfin ça c'est un problème. » Bon, enfin, pour vous dire que je prépare d'autres contes pour enfants.
Pourquoi ce revirement?
Parce que ça me plaît. Ça me plaît de parler, c'est beau, c'est distrayant. Enfin.
Est-ce que vous aviez l'habitude de raconter des histoires?
Assez, oui, assez. Et ce que j'aimerais, c'est mettre mes contes pour enfants en guignol.
C'est une très bonne idée.
Enfin, en playback, si vous voulez. Avec les marionnettes, avec les personnages. Enfin, on fait les marionnettes et on le fait en playback. Enfin, on met le disque derrière, on fait le playback. J'aimerais bien faire ça. Mais je ne trouve pas encore quelqu'un qui accepte.
Ah, je crois qu'il faut que vous fassiez beaucoup de disques pour avoir beaucoup de droits d'auteur.
Et pour me payer un guignol, ça.
Voilà.
Oui, enfin, j'aimerais bien, mais enfin, ça, c'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est au public.
Est-ce qu'on s'est marré? C'est un fou furieux, lui. Je pense qu'il a eu quelques soucis de santé, là, c'est dommage. Mais j'étais un admirateur. Mais c'est quand même lui qui a fondé Harakiri, je vous signale. J'étais trois, et dont lui. Et son... Ouais, ça m'avait... Bon, toutes les idées, c'était génial. Et le petit cirque, c'était fantastique. C'est beau, hein. Il dessinait vachement bien. Mais il est venu souvent ici. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Et il adore souffler dans les bouteilles de bière vides. Alors là, il est très, très drôle. Chez lui, en plus, quand il invitait à bouffer chez lui, personne ne pouvait s'asseoir parce que c'est une table. C'est pas une table, c'est une mène. Hein, où il y a... On peut pas mettre ses jambes dessous. Ouais. Donc tout le monde était sur... Genre Amazon, enfin... Non, mais il se marre de trucs comme ça, c'était drôle. Moi... Il venait de la maison que j'avais à Grasse, il nettoyait au jet d'eau, quoi, dedans. Ah ouais, il est bien. Mais c'était à l'époque où, quand même, lorsque lui nettoyait au jet d'eau, dès qu'un mec sortait de la maison, il avait quand même une casserole d'huile sur la tronche, quand même. Le mec disait, non, faut arrêter maintenant. J'ai bon, ok, prends une douche, et j'envoyais un morceau de beurre. Bien dur, il pensait que c'était une sabonnette. Et les mecs disaient, ah non, là, c'est trop, bon, etc. Après, il y avait des corridas avec la Lamborghini. Je mettais des billets de 10 sacs sur les. Comme des PV, là. Et les mecs essayaient d'attraper les trucs. Enfin bon, ça c'est en dehors. Bon, avec Fred, non, mais il y a eu une connivence de suite terrible. Ben là, on revient aux gens de bande dessinée, quoi. Il n'y a pas de mystère. Là, ils travaillaient à Pilote aussi et tout ça. Mais... Ouais, c'était bien. Je pense que c'est Volson qui l'a contacté, tout ça, pour essayer de. De faire d'abord des contes pour enfants, d'abord des chansons, mais surtout ça, les petits contes pour enfants. Là. Et c'était bien. Donc j'ai fait toutes les voix, parce qu'on n'allait pas prendre des comédiens pour faire ça, c'était drôle. Dont il y a le cerf empaillé, je pense que j'avais pris, j'ai essayé de chanter comme Brassens. Ouais.
Voici le meilleur moment de la vie d'un bûcheron, ouais! Mais qu'est-ce que... Hé, hey, il y a une dame là-bas. Tu mets là, elle est tombée dessus. On sent, attention. Attention. Ouf. Eh ben, il était temps, hein.
Eh bien, dites donc, jeune homme. En voilà des manières. Qu'est-ce qui vous a pris de me bousculer ainsi?
Bousculer. Oh, vous en êtes bien bonne. Vous avez pas vu l'arbre, non?
L'arbre?
Ce sont les feuilles d'une feuille.
Mais l'arbre? Quel arbre? Oh! Mais si je comprends bien, vous m'avez sauvé la vie, jeune homme.
Ouais.
Eh bien, ça, c'est gentil, alors. Vous méritez une récompense. Oui, une récompense.
J'ai pas besoin de récompense, moi.
Mais si, j'insiste. Allons, vous avez bien envie de quelque chose. Eh bien, parlez, vous n'avez qu'à parler, cette chose est à vous.
D'accord, ma bonne dame. D'accord, tiens. Eh ben, j'ai envie d'une voiture. Une belle voiture, une grande voiture, une grosse voiture. Et décapotable, en plus. Et toute décorée. Nah.
Une voiture? Tiens, quelle drôle d'idée, une voiture. Tiens. Une voiture comme celle-ci?
Non, mais vous moquez de moi ou quoi?
Oh, je n'oserais jamais, jeune homme. Surtout après ce que vous avez fait. Voyons, pourquoi dites-vous cela? Elle ne vous plaît pas, cette voiture?
C'est pas une voiture que vous me montrez là. C'est une maquette, ça. C'est un modèle réduit de voiture. Moi, je parlais d'une grande voiture, d'une vraie voiture.
Petite voiture deviendra grande, jeune homme. Prenez-la. Prenez cette maquette, comme vous dites. plantez-la et arrosez-la avec du jus de myrtille, un soir de pleine lune. Et vous verrez, jeune homme, vous verrez.
Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-elle passée? Elle a disparu. C'est une histoire de fou, ça. Ça, c'est une histoire de fou.
Et non, Léonard, ce n'est pas une histoire de fou, non. Plutôt une histoire de fée. Car, vous l'avez bien sûr deviné, cette vieille dame est un peu fée. Oui, il s'en passe des choses dans les forêts. Ouais. Donc, Léonard se retrouve seul devant le grand arbre abattu. Il pourrait croire qu'il a rêvé. Seulement, dans sa main, il y a cette maquette, cette voiture en réduction. Alors...
Alors, du jus de myrtille, hein? Après tout, pourquoi pas?
Les myrtilles ne courent pas les forêts, tout le monde sait cela. Aussi Léonard passe à la journée à les chercher pour les cueillir.
Ah, en voici quelques-unes, là. Et hop, encore des myrtilles. Hop, et encore, et toujours. Et hop.
À la tombée de la nuit, Léonard s'assit au pied d'un grand chêne pour souffler un peu. C'est à ce moment-là qu'il leva la tête et s'aperçut que la lune venait de se lever, déjà. Et la lune était pleine, et ses poches étaient pleines, elles aussi, pleines de myrtilles.
Le hasard, il fait bien les choses. Je vais planter cette voiture soir même, on verra bien.
Léonard fit un trou dans la terre et planta la voiture. Puis, sans se presser, il pressa les myrtilles et attendit.
Vous pourriez recommencer à zéro. Dans ce cas-là, qui est-ce qu'il faut aller voir?
Oh, il n'y a qu'une bonne adresse, c'est Mireille.
Bonjour, monsieur. Approchez un petit peu, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à la bouche, à la main? Qu'est-ce que c'est? Oh, non, monsieur, vous n'avez pas vu le panneau derrière? Faut pas faire ça. Vous voulez être chanteur pour me voir arriver dans un music-hall, vous verrez toute cette affiche-là tout le temps, monsieur. Jamais. Enlevez le cigare. Voilà, vous êtes mignon comme ça. Vous avez l'air gentil un peu... décoiffé. C'est votre coiffure habituelle, ça?
France Inter.
Faut pas être timide non plus. Vous savez, c'est un métier, il faudra affronter si ça marche le public. Vous jouez d'un instrument, peut-être? Ah oui, c'est intéressant. Il n'y a encore pas eu qui joue de cet instrument. Qu'est-ce que vous chantez, monsieur, s'il vous plaît?
En principe, pour les mariages, c'est La Belle de Calix.
La Belle de Calix. Connaissez-vous votre tonalité?
Chante en do, moi.
En do.
Et de do, si d'ailleurs, vous allez voir. Allons-y.
Oh, qu'il est drôle, j'ai d'amis.
Bon, c'est la graine de terre frite. Bon, pardon.
La belle.
Attendez, monsieur, il y a toujours une. Non, monsieur, il y a toujours une petite ritournelle, une petite introduction avec une chanson. Écoutez.
Oui, pardon.
Vous voyez, c'est pas ça. Allons-y.
Ah, mais allez-y, il faut que je.
La belle. Pardon, vous avez déjà essayé d'aller ailleurs?
Où ça?
Dans d'autres...
Oh, je suis allé souvent fois à gauche.
Les gens disent que quelquefois, non, faudra essayer.
Allons-y.
La. Oui, allons-y, vous d'abord.
La belle de Cadix a des yeux de velours. Aïe.
Ah, qu'est-ce que dites-vous?
Ouais, c'est bien. Bah, Mireille, oui, c'est toute une époque et c'est... Quelle belle chanson elle a faite, cette femme-là.
Ah oui.
Oh là là, quelle musicienne. Oh là là. C'est une mine d'or, ces chansons. C'est magnifique. Et c'était un personnage formidable. Je dînais très souvent avec elle. Bon, ça, c'est grâce à Françoise. Elle prenait un fond de whisky et elle buvait ça comme un petit oiseau pendant tout le repas. Et après, on la raccompagnait chez elle. Il fallait attendre qu'elle soit arrivée chez elle, nous faisait coucou d'en haut pour repartir. Ouais, quelle femme formidable. Puis elle a vu, enfin, elle avait. Je sais pas, elle en savait plus qu'un ordinateur.
Nous enchaînerons avec un interlude musical.
Get down.
voudrais savoir le regard donc, que vous portez sur les reprises, alors que ça soit vous, quand vous reprenez Mouloudji, ou avec votre femme, Mireille et Jean-Noël, ou quand on vous reprend, que ce soit Vanessa Paradis, Arnaud, les Japonais, etc. C'est... Qu'est-ce que... Comment vous voyez ça, la notion de reprise ?
Je vois rien, hein, d'abord, mais j'entends. Mais... Il y avait Bijou aussi qui avait fait
ouais.
Avec... Mais ça, c'est pas le meilleur, non ? Bon, il y avait aussi Nicolas aussi qui a repris... C'était l'opportuniste qui avait repris Indochine. Il y en a d'autres. Hein, qui... Bah, ça fait plaisir, parce qu'on se dit, tiens, les mômes, c'est pas mal. Puis en plus, s'il y a un duo à faire, je connais la chanson, c'est déjà ça. J'ai pas à me faire chier à apprendre des trucs... Mais on appelle ça reprise, ouais, je sais pas, mais repriser, avant c'était plutôt les chaussettes, quoi, c'est... Reprise, ouais, je sais pas, c'est, disons, une autre formule. Et avant, les chansons étaient créées par, puisqu'on a, on en a peut-être parlé déjà des formats ou des trucs comme ça, eh bien, on mettait une chanson créée par André Claveau, je sais pas quoi, là, mettons un petit train s'en va dans la campagne, hein, un petit train s'en va le bon matin, bon, etc., c'était écrit, créé par, et après c'était aussi, c'était d'abord créé par un tel, ou Gloria Lasso, ou André Claveau, je ne sais qui, je ne sais pas. Bon. Et ensuite, un tas d'autres gens les chantaient. Donc les reprises, oui, ça fait toujours plaisir. Hein, c'est, si c'est bien fait, si c'est bien perçu, ça va, c'est là où on se dit, ça va les mecs, le message est bien passé. Quoi. Et si c'est pour faire... Bah, j'en ai eu d'autres reprises aussi, là on parlait de Paris s'éveille, je sais pas, il y a 2-3 mois là. Et Paris CV, j'ai entendu une reprise faite par... ça passait pour la RATP, il s'appelle Diop, je sais pas quoi, je sais pas. C'était génial, hein. C'est très drôle. Les balayeurs, là, sont pleins d'emballés. Non, non, c'était très bien. Hein. C'était encore plus imagé que la chanson elle-même, parce que c'est très imagé, là, c'était encore... Enfin, c'était bien. Ça fait plaisir. Et puis Vanessa, ça fait encore plus plaisir.
Mourir de rire, mais rire ne tue pas.
France Inter.
Je suis un néophyte, donc vous me ferez un...
Je suis un néophyte.
Ça, c'est un siglossite. C'est un c'est pas mal, c'est plutôt bien même. Excellent, excellent. Donc le tout c'est de le fumer, savoir le fumer, ne surtout pas avaler la fumée, garder la fumée dans la gorge un certain temps. Et on a la bouche pleine de volutes, non pas les volutes c'est plus tard, mais non c'est des choses excellentes. Bon. Alors qu'est-ce que vous savez fumer ? Alors soit on l'ouvre avec un tas d'appareils, soit la guillotine, mais ça dépend des cigares. Mais... Certains diadémas, faut quand même la guillotine. Mais là, je l'ouvre à l'ongle. Donc, vous voyez, il faut prendre là. Bon, il est un peu sec, là, parce que vous l'avez trimballé au soleil. Mais là, le trou était très, très bien fait à l'ongle. Je suis une espèce d'artisan. Je ne veux pas dire que j'ai un ongle spécial, ni trop long, ni trop court. Non, mais par moments, j'ai un problème, c'est que j'ai pas mal de feuilles de tabac dans l'ongle gauche. Et on se dit, il est pourri, c'est pas ce qu'il fait comme bricolage. Alors donc, là je pense qu'il est, je l'ai mis où ? Je vais aller le fumer.
Là, non, c'est pour moi.
Là, il est tout vert, enfin il est pas... Il est tout vert, non, pas du tout. Ça, c'était les... Tout vert, c'était les doubles claro, clarissimo. Ça n'existe plus, je crois. Bon, là, la cape est un peu distendue, parce qu'il a fait très chaud aujourd'hui. Là. Bon, là, il est prêt à être fumé, mais... Ça démarre par le foin,
d'accord.
C'est-à-dire le début, la tête, ce que vous avez dans la bouche. D'abord, il n'y a pas tellement de saveur qui se dégage. Après, il y a le sublime qui arrive, vraiment le cigare. Et puis, à un moment, c'est le triple d'un filtre des clubs de merde. Là, il faut le jeter, c'est fini.
C'est fini.
C'est fini. Mais, non, c'est pas bon, là. Vous buvez un jus terrible, c'est comme un cigare qui s'éteint. faut jamais retirer dessus, il faut pas faire la cheminée. Il faut le chauffer, la flamme bien au-dessous. Il faut le chauffer et ça doit redémarrer.
Allumette ou briquet ?
Oh ben, du moment que c'est pas l'essence, pour moi tout va bien. Et on n'écrase jamais un cigare, on le laisse mourir seul. Jamais on écrase un cigare. Celui qui écrase un cigare, méfiez-vous de lui et le comptez plus dans vos amis. Ça se laisse mourir seul, vous le posez, point.
Après avoir écouté Le Maître, voici ma première fois.
Alors, par le briquet, tu vas mettre dessous le cigare, mais pas la lame près du cigare, en dessous.
Déjà la tête.
Voilà, la tête un peu penchée.
Oh, la flamme n'est pas assez grande.
La flamme n'est pas assez grande, mais.
La flamme n'est pas la bonne hauteur.
Voilà, attends, on va commencer à le.
Attends, il ne sait pas alors. Non.
Voilà,
tourne le cigare.
Tourne le cigare.
Et faut aspirer, mon pote. Je ne veux pas dire que tu es au bois de Boulogne.
Voilà,
mais...
voilà.
Et tourne. Tourne. Là, je suis à bonne distance. Tourne. Et il faut vraiment que ce soit brûlé. Hein. Allez. Je sais, c'est difficile. C'est incroyable. Mais là, il me paraît bien allumé. Ben, je reviens, je vais m'en fumer. Hein, tu me donnes envie.
Hé hey, oh oh hé hey, mais il va bien revenir la semaine prochaine, non? Hé hey, reviens.
Puisque vous êtes vraiment très très gentil avec moi, les applaudissements sont parfaits, mais ce qui me manque, c'est un triomphe. Vous savez ce que c'est le triomphe? C'est les mêmes applaudissements, mais debout. Merci Lala, merci beaucoup.
Et moi, et vous, une émission coproduite par la Radio Suisse Romande, Radio-Canada, la Radio-Télévision Belge Francophone et France Inter. Réalisation Philippe Labrousse, assisté de Godric Grosby-Vermeil, mixage Michel Thomas, documentation Janine Marc-Peset. Merci aux fées clochettes Emma et Sylvie. Olivier Bas, rendez-vous la semaine prochaine pour Dutronc,
le Corse.